Moi, je suis André du Mouchmail au Cachin Oriental. J'ai réfuté totalement cette
histoire. Moi, c'est Céline de Bourgogne au Cachanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bienvenue à Parole aux auditeurs, comme chaque deuxième mercredi du mois d'octobre. Donc demain, le monde va célébrer la journée de la prévention des catastrophes naturelles, une journée instituée par l'Assemblée générale de l'ONU depuis 1990. Elle permet d'informer le public sur les différentes sortes de catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre, les ouragans, les inondations, les incendies de forêt, les buissons de terrain. Une catastrophe naturelle est un événement d'origine naturelle, subi ou brutal, qui provoque des bouleversements importants, pouvant engendrer des grands dégâts matériels et humains. Les catastrophes naturelles sont provoquées par des causes météorologiques, sismiques et autres, sur lesquelles l'homme n'a pas prise. Néanmoins, leur bilan dépend fortement du facteur humain. Comment prévenir les catastrophes naturelles en RDC? Monsieur John Moinzay, notre invité, il fait partie du département de la gestion des catastrophes à la Croix-Rouge. Sitin Koutou, Nicole Ngacha réalise cette émission. Jean-Noël Mokondo est à la technique, à la présentation. Marie-Chantal Lumba, soyez tous les bienvenus à cette émission.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapitale.org.
Bonjour, bonjour monsieur Moinzay.
Bonjour.
Nous sommes, c'est un plaisir pour nous de vous inviter dans ce studio. Pendant une heure, nous allons échanger avec nos auditeurs sur les questions qui nous intéressent, bien sûr la prévention des catastrophes naturelles, bien sûr la RDC, connaissons l'eau de catastrophes naturelles, notamment les glissements de terrain, il y a aussi des inondations, mais vous travaillez dans la gestion des catastrophes au niveau de la Croix-Rouge. Quelles sont les autres menaces que connaît la RDC, sachant que le pays, bien sûr, comme dans le monde entier, on connaît des bouleversements climatiques?
Merci. Je pourrais dire, avant toute chose, d'abord remercier la radio Okapi d'avoir songé à la Croix-Rouge pour cette intervention. Mm-hmm. Et à ce qui concerne les menaces pour la RDC, je pourrais vous dire que la RDC regorge quasiment toutes les catastrophes, j'ai dit quasiment, donc un bon nombre de catastrophes pour la RDC. Voilà ce que je pouvais dire, sinon, si nous pouvons le dire, c'est-à-dire les aléas, nous avons le catastrophe provoqué, les aléas géographiques, les aléas, nous avons les aléas climatiques, environnementales, épidémie et épizootie. Nous avons aussi des aléas anthropiques. Donc là, c'est l'homme
favori. Nous parlons plus des catastrophes vraiment naturelles, là où ce que l'homme, c'est vrai que des fois l'on peut favoriser qu'il y ait une catastrophe naturelle, mais nous allons parler de là où l'homme n'a pas vraiment l'emprise, donc ça arrive, par exemple, lié au changement climatique, ces tremblements de terre, par exemple, que nous avons connus à l'est du pays il y a quelques années. Il y a aussi, par exemple, ces inondations que l'on connaît aussi dans certains villages qui sont aux abords du fleuve, du fleuve Congo. Mais entre-temps, avant de revenir à vous, nous allons écouter Théodore qui se trouve à Mbujimayi, Sengi à Kinshasa et Wesley à Tananga. Ils vont nous dire ce que eux ils vivent dans leur milieu. Et aussi, ce qu'ils préconisent pour pouvoir prévenir ces catastrophes naturelles.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Théodore.
Bonjour Maman Chantal.
Oui, nous vous écoutons. Est-ce qu'à Mbujimayi, vous avez aussi vécu ces catastrophes naturelles?
Oui, nous avons vécu de notre manière. Sans catastrophe, nous voyons un événement subi qui cause un bouleversement ou bien une destruction. Après ce bouleversement, il y a destruction des maisons. Les gens tombent victimes. C'est vraiment différent des tremblements de terre ou inondations. Parce que ici, il y a le problème des stagnation de l'eau, des eaux débutées de pluie. Mmh. Dans une rue, vous trouvez l'eau stagnante. Quand cette eau stagne, alors ça crée des problèmes. Aujourd'hui, on peut taxer et toutes ces catastrophes. Moi, je dirais non. Ici, chez nous, à Mbujimayi, en 2000, par exemple, il y a eu un lotissement de deux terrains. C'est de la poste, c'est des terrains de foot de la télé de Mbujimayi. On a construit beaucoup de maisons. Alors, à l'époque, on avait construit un collecteur d'eau de pluie une capacité réduite qui permettait l'eau des pluies à couler facilement jusqu'à la rivière Mouya. Bon, l'État, avant de lotir ces terrains, devrait agrandir ces collecteurs d'eau. Parce qu'il y a eu des grandes constructions dont l'air facile a commencé à diriger les eaux des pluies vers ces petits collecteurs. Maintenant, ces eaux ont créé une catastrophe au niveau de l'avenue Lumumba et Emera. Il y a eu des maisons. Il y a eu des papas, il y a un papa Solomon et Chamba Bajak qui sont morts là-bas, suite à cette catastrophe. Il y a les gens qui ont perdu des maisons sur l'avenue Lumumba et l'Irance. Et puis nous avons découvert les fentes traversant quelques trois parcelles, une fente. Alors nous sommes demandé, bon, les fentes sont causées naturellement ou bien c'est venu à cet bouleversement. Donc c'est ainsi que je peux dire, moi, à l'État, et l'État doit, dans un premier temps, avoir des préventions, agrandir des collecteurs d'eau, savoir comment on peut lotir. On ne peut pas lotir pour lotir seulement. Aujourd'hui, nous avons des problèmes sur l'avenir, le monde Patrice et Emérance de Nice. Les gens sont pas. Il y a des sinistrés, on a fait des listes de sinistrés. Jusqu'à ce jour, les gens-là ne sont jamais indemnisés. Voilà un peu ce que je peux dire pour notre État qui lotit n'importe où, n'importe comment. Il faut d'abord connaître l'endroit où le dire. Voilà ce que j'avais à intervenir.
Oui, merci beaucoup Théodore. C'est vrai, vous avez constaté cela et vous estimez que l'État doit mener des actions préventives. Sengi, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Marie-Chantal, bonjour Radio Capi.
Nous vous écoutons, Sengi.
Ok, merci d'abord pour m'avoir associé pour l'émission d'aujourd'hui qui parle de comment prévoir les catastrophes naturelles.
Oui.
Madame, je crois, nous avons suivi ce matin sur vos antennes qu'à Kinshasa, je crois vers Galema, il y a eu des inondations et il y a eu pas mal de gens qui ont dormi peut-être sous la belle étoile parce que ils étaient frappés par ces catastrophes naturelles. Alors, ce que moi je voulais proposer, c'est que dans notre pays, ou plus particulièrement ici à Kinshasa, le ministère de l'urbanisme doit vraiment savoir quel endroit, quel milieu lotir. Parce que, vous allez remarquer, ceux qui habitent tout au long, pas seulement des fleuves, tout au long des différentes rivières qui sont à Kinshasa, quand ils menacent de pleuvoir ou quand il pleut, en tout cas, c'est vraiment malheureux. Ils sont inondés, les histoires s'abîment dans la maison, mais ils construisent expressément. C'est ce qui est aussi curieux. Les gens construisent expressément à 0 mètre du lit de la rivière. Alors, si le ministère de l'urbanisme et le ministère du plan aussi y compris peut mettre l'accent là-dessus, donc tous ceux qui habitent tout au long des rivières ou à côté des fleuves puisse au moins s'écarter de la de rivière ou du fleuve, au moins à une distance d'un kilomètre. Ça serait important pour éviter ces catastrophes. Aussi, les glissements des terrains. Oui, heureusement qu'il a commencé à pleuvoir. Vous avez remarqué, vers le site de Kindele, en allant vers Kimwenza, la route est coupée en deux. Ça fait plus d'une année. Et on essaie de lutter contre cela. On ne trouve pas de solution. Pourquoi? Parce qu'il y a un glissement des terrains. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, le gouvernement doit prendre en charge. Je suis chaque fois, excusez-nous. Nous accusons toujours le gouvernement, tel le gouvernement, excusez-nous, mais c'est le gouvernement qui doit s'en charger. Le gouvernement doit prendre compte des sites qui sont, qui menacent les érosions, voilà exactement, les érosions partout à Kindele, à Mongafula, à Verlipene et partout là, pour essayer de sécuriser, parce qu'il y a des maisons qui s'en vont, il y a des quartiers qui s'en vont comme cela. Alors, nous devons peut-être aussi, nous les hommes, prendre conscience que non, à tel endroit, on ne peut pas quand même continuer. Là, vous voyez que dans quelques années, les ravins vont se créer. Mais il faut quand même éviter pour ne pas toujours accuser le gouvernement. Après, voilà, le gouvernement vient nous aider ici, vient nous aider parfois. Nous-mêmes, nous sommes responsables de certains actes que nous posons. Et puis, nous accusons le gouvernement et d'autres personnes. Merci beaucoup.
Merci, Sengi, Wesley, Akananga, bonjour. Oui, s'il vous plaît, aussi, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort parce qu'on ne vous entend pas très bien.
Oui, merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'offrez. J'ai suivi les arguments ou les propos de mes précédents. Alors, les catastrophes sont vécues partout, nous aussi, nous les avons vécues et nous les vivons ici chez nous à Canada. Moi, si vous parlez, je suis enseignant dans une école de la classe, il y a un temps à l'Institut Matilidi. Mais forcément, nous avons dit.
En tout cas, Wesley, on n'arrive pas à vous suivre. Vraiment, c'est assez bas. On va essayer de pouvoir vous recontacter. Peut-être que la ligne téléphonique va s'améliorer. Christian Mbangaka, bonjour. Bonjour, Christian. Nous avons des problèmes aussi avec la ligne téléphonique de Christian qui se trouve à Mbandaka. Nous allons revenir dans ce studio où se trouve M. John Mwanza et je rappelle aux auditeurs que c'est notre invité. Il fait partie du département de la gestion des catastrophes à la Croix-Rouge nationale.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Moisa, vous avez suivi cette première série d'auditeurs et sont revenus sur les catastrophes d'une manière générale. C'est vrai que souvent on distingue deux familles de catastrophes, souvent c'est lié à leur cause. On a les catastrophes naturelles qui concernent des événements climatiques, sismiques ou astronomiques majeurs, mais aussi les catastrophes liées aux activités humaines qui sont parfois bien sûr plus dévastatrices. Mais cette distinction reste artificielle parce que l'impact des catastrophes dites naturelles dépend largement du facteur humain. Et là, nos auditeurs sont revenus sur des actions que l'État pourrait mener pour prévenir ce genre de catastrophes. Ils ont fait allusion aux érosions, à la construction sur des sites érosifs. C'est vrai qu'au cours de votre carrière au niveau de la Croix-Rouge, de vos activités que vous menez au niveau de la Croix-Rouge, vous avez rencontré souvent des victimes de ce genre de catastrophes que nous connaissons, les érosions et les glissements de terrain. Et dites-nous, à ce niveau-là, qu'est-ce qui peut être préconisé pour prévenir ce genre de catastrophes?
Merci. Comme vous venez de le dire, ça fait partie des missions aussi de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge a sa mission donc de prévenir, d'atténuer, d'alléger, de préparer, donc d'atténuer les souffrances humaines en toutes circonstances. Et à ce titre-là, donc vous voyez déjà qu'il y a une implication que la Croix-Rouge fait dans le cadre des catastrophes. Et pour de comment la Croix-Rouge essaye de travailler ou d'intervenir pour minimiser la catastrophe.
Liée notamment à, au glissement de terrain.
Au glissement de terrain. Tels que les érosions, les éboulements, l'éboulement des sols. Il y a d'abord, en premier lieu, une évaluation. On doit mener d'abord une évaluation, faire une EVC, étude de vulnérabilité et des capacités dans ce milieu identifié à risque ou à haut risque. Ça, c'est très, très important.
Et vous le faites avant que la catastrophe ne puisse s'annoncer ou bien c'est après?
Bien sûr, on le fait avant, c'est ce que j'ai dit, atténuation. Donc, la mitigation. Donc, on doit d'abord essayer de prendre conscience.
Et c'est sur base de quels éléments que vous arrivez à dire que ce site est quand même assez dangereux?
Voilà.
Et à haut risque.
C'est à partir de ces études de vulnérabilité des capacités. Et étant donné que la catastrophe, ou la gestion plutôt des catastrophes, c'est une activité multisectorielle, multidimensionnelle. Donc, il y a l'intervention de tout le monde. Et quand bien même mon collègue a parlé sur les tâches ou les responsabilités de l'État ou du gouvernement, et heureusement aussi qu'il a associé, nous devons aussi s'impliquer. Donc, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas, qu'on laisse la situation au bon soin du gouvernement, mais c'est tout le monde, l'implication de tout le monde pour parvenir à...
Et de manière concrète,
de manière,
vous trouvez un site, vous estimez que c'est un site qui est à haut risque, comment ça se passe?
On doit
réunir, par exemple, les populations pour informer du risque qui sont en train d'encourir.
La Croix-Rouge, pour l'efficacité, travaille toujours avec la communauté. Et là, on demande à la communauté quels sont leurs problèmes. Et par contre, si la communauté a l'idée sur le danger, le danger qui lui guette, et là, directement, nous devons travailler ensemble pour lui dire encore qu'il y a ça, tel cas. Mais est-il que si la population n'est pas impliquée, là, c'est pas bien, ça sera un travail assez difficile.
Convaincre les habitants du risque qu'ils sont en train d'encourir.
Bien sûr, c'est là où l'implication de la communauté. Et maintenant, après l'étude des vulnérabilités, des capacités, on pourrait déjà dégager tout ce qu'on a, constaté, on a identifié. Quelles sont les forces de la communauté? Qu'est-ce qu'ils possèdent comme forces? Et quelles sont leurs faiblesses? Malgré ils sont là, quelles sont leurs faiblesses? Quelles sont les opportunités par rapport à ces dangers, à cette situation? Et quelles sont les menaces? Ça, c'est très important. C'est là où la Croix-Rouge intervient efficacement. Alors, après avoir dégagé tout cela, on pourra maintenant voir qui fait quoi. Quels sont les besoins? Les besoins par rapport à ces dangers. Et comment trouver maintenant le moyen pour parvenir à intervenir efficacement. Et à partir de là, donc, toutes les choses bien réunies, on pouvait maintenant entrer, au vif du sujet, donc à l'opération. Et ici, sans oublier l'implication des autorités politico-administratives ou de l'État.
Et un cas concret que vous avez eu à mener pendant cette situation, il y a plusieurs sites qui sont à haut risque. Comment vous avez pu faire, par exemple, pour déplacer les populations, si ces populations étaient obligées de se déplacer ou carrément, quelles sont les actions pour renforcer, on peut dire, la terre pour qu'elle soit un peu plus solidifiée, ce qui permet en fait d'éviter ces érosions?
Merci, Radio Capi. Mon collègue a bien parlé. Il y a ici le problème d'urbanisation. Ça, nous devons le retenir. Le problème d'urbanisation auquel, quelque part, il y a des failles. Et la répartition de tâches ou des responsabilités, disons, à tout le monde, comme je l'ai dit là, il y a le gouvernement quelque part, il y a nous-mêmes la communauté et d'autre part, parce que nous ne respectons pas toutes les dispositions possibles ou utiles que le service d'urbanisme a mis en place. Et c'est ce qui fait que nous passons à des telles situations. Nous prenons les quatre types que la Croix-Rouge a intervenu ou a contribué. C'est dans trois communes, dans un premier temps. Il en a fait autant. Mais ici, à Kinshasa, il y a la commune de Limété, il y a la commune de Kisenso, il y a la commune de Matete, précisément le quartier Maziba, quartier Maziba, et à Limété, c'est le quartier Pêcheur, et à Kingabwa, Pêcheur, et à Kisenso, le long de la rivière.
Mais qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Les populations vous ont déplacé ou bien vous les avez sensibilisées?
Il y a eu d'abord la sensibilisation et on a essayé de réunir le moyen ensemble avec la communauté. La main-d'œuvre était faite par la communauté et nous avons fait ériger une digue.
Je crois qu'il y avait des inondations dans ce quartier.
Bien sûr.
Vous avez canalisé les eaux et vous avez pu, d'une manière ou d'une autre, freiner.
Vous savez que, peut-être j'anticipe pour vous interrompre un peu, je m'excuse beaucoup. Le méandre de l'eau, là, c'est très difficile pour le dévier ou faire quoi que ce soit. Mais essayez de faire en sorte pour que l'eau passe. Et il ne faut pas le barricader de force, sinon ça peut couper tout, ça peut tout détruire. L'eau a une force terrible, ça vous devez le tenir. Nous avons érigé avec la communauté une digue de long, si j'ai encore une bonne mémoire, de 2000 mètres. Le long de la rivière Ndjili. Bon, c'est ce qui fait que, avec la sensibilisation, il y a aujourd'hui certaines communautés qui vivent encore là et d'autres qui ont laissé un peu cette partie pour être un peu en retrait.
C'est un peu dépassé pour éviter ce que, bien sûr, le débordement de la rivière pourrait causer comme dégâts.
Bien sûr.
Nous restons avec vous. Nous allons écouter Kindula qui se trouve à Kinshasa, Albert Akisangani et Eric Akamina. Bien sûr, Kamina, c'est dans la province du Katanga.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Et de Kinshasa, bonjour Kindula.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Nous parlons des catastrophes naturelles, comment prévenir? Quel est votre avis, Kindula?
Madame, moi je n'ai jamais compris ce qui se passe surtout dans notre pays. Généralement, quand on veut lotir un espace, on a trouvé un quartier où on doit créer. Et on prévoit tout ce qu'il faut au moment du lotissement. Et on prévoit quand on sait que c'était un terrain glissant ou un terrain sur une pente. On prévoit des caniveaux, on prévoit tout. C'est ce que nous voyons dans d'autres pays. On commence d'abord par prévoir toutes les infrastructures, toutes les voies de canalisation d'eau. Mais ici chez nous, c'est la population qui veut qu'il s'empare d'un terrain. Et les responsables des services compétents viennent délivrer les documents. Et ce n'est qu'après quand les problèmes d'eau se posent, des pluies qui créent des érosions, on commence à crier, on vient et faire des caniveaux pour user de l'eau, comme j'ai dit, les responsables de la Croix-Rouge. Pourquoi nous agissons de cette façon-là? Alors que l'administration est bien, bien organisée. Nous avons d'abord les chefs de rue, nous avons les chefs de quartier, nous avons les bourgmestres, nous avons à tous les niveaux, en fait, des chefs de rue jusqu'au président de la République, il y a toujours un responsable quelque part. Mais comment les choses se passent de cette façon-là, sans que personne s'en occupe, sans que personne vraiment ne s'en occupe? Je pense que nous avons un problème d'inconscience totale et générale.
Donc, les gens... Vous proposez pour prévenir ce genre de catastrophe?
Oui, mais madame, nous avons beaucoup d'espace ici chez nous. Nous n'avons pas de problème d'espace. On ne peut pas laisser les gens aller construire. Là, on ne peut pas construire. Le colonisateur, il a laissé des espaces verts. Il savait pourquoi il a laissé ces espaces. Mais nous, on construit partout. Et sous les puissants de l'État. Non, on doit aller lotir des endroits et placer les gens dans ces endroits-là. La meilleure façon d'ailleurs, c'est que l'État prenne l'habitat entre ses mains. C'est l'État qui doit construire, comme les colonisateurs ont construit des quartiers de Yolo, Lemba, Matete, partout. Donc, on ne connaît pas les gens à les construire comme ils le font, on les laisse faire. Et ce n'est qu'après que nous commençons à nous plaindre des catastrophes qui arrivent.
Merci. Merci beaucoup, Kindoula. Vous êtes aussi encore une fois revenu sur ces catastrophes qui sont liées à l'activité humaine, bien sûr, qui sont pas très loin des catastrophes dites naturelles qui viennent des fois sans que l'homme puisse avoir une action ou bien puisse avoir l'emprise sur ces genres de catastrophes. Merci beaucoup, Kindoula. Albert, vous êtes à Kisangani, bonjour. Albert, vous êtes encore en ligne. Nous avons perdu Albert. Eric de Kamina, bonjour.
Bonjour, madame.
Oui, Eric, nous vous écoutons concernant les catastrophes naturelles.
Ok, moi, je voulais partager la responsabilité. Pour prévenir ces catastrophes, la responsabilité entre nous, la population, et notre État. Parce que c'est l'État d'abord qui provoque les inondations qu'on sort. On distribue des parcelles, même dans des endroits là où il ne faut pas construire. À ce moment-là, nous devons d'abord, nous, qui nous procurons les parcelles, être d'abord conscients, savoir que ce terrain est mauvais. Et en plus, l'État même qui mandate des gens pour vendre des parcelles dans des endroits là très compliqués.
Mmh. Ah. Merci, Eric de Kamina. Et je rappelle à tous nos auditeurs qu'aujourd'hui nous parlons des catastrophes naturelles, bien sûr, qui sont provoquées par des causes météorologiques, sismiques et autres sur lesquelles l'homme n'a pas de prise. Néanmoins, leur bilan, bien sûr, dépend fortement du facteur humain. Peut-être que vous aussi, vous avez l'information de ce qui se passe dans d'autres pays, que ce soit des tremblements de terre, que ce soit des glissements de terrain, des ouragans, des inondations, même des incendies des forêts. Donc aujourd'hui, nous en parlons comment prévenir et nous avons invité pour vous Monsieur John Moisa qui est du département de la gestion des catastrophes à la Croix-Rouge nationale. Ingoupa, vous êtes à Talanga, bonjour.
Alors, bonjour aussi à l'invité. Bonjour aussi à tous les auditeurs de Radio Kati. Je vais vous laisser participer aussi à l'émission concernant le sujet d'aujourd'hui. Vraiment, c'est un moi sujet qui m'a aussi intéressé. Souvent, les auditeurs disent que c'est un problème de l'État. Mais moi, je peux dire que jusque-là, s'il y a des catastrophes naturelles, d'autres cas, ça concerne aussi nous, la population. C'est par exemple, si nous prenons l'exemple des érosions. Vous voyez que ce sont les constructions anarchiques qui provoquent aussi des érosions dans d'autres pays. Et vous savez, lorsqu'il y a des érosions, vous savez, la chute est comme la conséquence pour des lieux. Et aussi, c'est aussi le problème des bouleversements climatiques. Nous devons éviter aussi les déboisements des arbres. Souvent, ici chez nous à Kananga, vous voyez, c'est presque dans les villages qui sont un peu à côté de la ville. Je trouve que tout le monde qui s'est chargé au déboisement des arbres. Et imaginez-vous que c'est dans les arbres qui nous donnent quand même des oxygènes. Et finalement, on va déboiser tous les arbres. Quelle personne a la conséquence? C'est la raison pour laquelle vous voyez quand même qu'il y a des bouleversements de climat. Vous voyez qu'il y a absolument une fête très chauffée à partir de là. Moi, je vais vous dire que vous puissiez conseiller aussi nos auditeurs, aussi leur enseigner concernant les catastrophes naturelles. Ils prennent aussi conscience de cela. Merci beaucoup.
Merci, Ingopa de Kananga. Vous êtes revenu sur la question du reboisement pour pouvoir participer d'une manière ou d'une autre dans, bien sûr, la reforestation de notre planète. Espoir, vous êtes à Bukavu, bonjour.
Bonjour Marie-Chantal.
Oui, espoir vous à Bukavu, quand même vous avez connu ce tremblement de terre où il y a eu plusieurs dégâts matériels importants, il y a aussi des morts, et la ville, dans certaines parties, on a dû reconstruire. Dites-nous, qu'est-ce que vous proposez, vous préconisez pour pouvoir prévenir les catastrophes naturelles?
Je vais d'abord contredire mon ami Eric, qui disait que la responsabilité est partagée entre la population et les autorités. C'est parce que c'est les autorités, ce sont les autorités qui ont l'obligation de donner des parcelles. Car une autorité donne l'autorisation de construire dans un endroit très dangereux, là, ça devient compliqué. Je vous parlais, il n'y a pas une semaine ici à Carreau, on a eu des pertes humaines, au moins 10 personnes ont perdu, donc 10 personnes sont mortes ici à cause des érosions. Et le problème est, si vous regardez la ville de Bukavu, auparavant, on avait d'arbres un peu partout. Mais ces derniers temps, on n'a plus d'arbres. Quelqu'un qui quitte le village à cause de l'insécurité, il vient en ville, il construit là où il trouve, il y a une petite place, et tout ça. Donc le problème, il faut que les autorités prennent en charge. Donc ça peut sur la question. Il faut que les autorités prennent tout ce monde-là, les déplacer, parce que moi je déplore, on aura beaucoup de pertes humaines quand si les autorités ne s'attendent pas sur la question.
Donc, Bukavu, une ville montagneuse, on regarde de tout ce que vous avez vécu, le boom démographique dans la ville, avec bien sûr l'exode rural, donc vous déplorez et vous souhaitez que le gouvernement puisse vraiment prendre en charge, vraiment trouver une solution concernant la construction, l'habitat dans ces quartiers de Bukavu. Et espoir avant que nous puissions nous séparer de vous, dites-nous aussi, mais concernant le tremblement de terre, qu'est-ce qui a été fait pour que prochainement, si cela arrive, parce que ce sont des choses qui peuvent arriver, et qu'est-ce qui a été mis en place pour que prochainement, s'il y a un tremblement de terre, qu'il y ait le moins de victimes possible?
Concernant le tremblement de terre, généralement les autorités provinciales avaient interdit à la population de construire au bord du lac. Parce que, vous voyez, c'est des lois, parce qu'il n'y a pas de parcelles à Bukavu, les gens commencent à construire un peu partout. Et donc, on a interdit aux gens de construire dans des endroits où on peut trouver des éboulements. C'est un peu ça, à ma connaissance.
Merci beaucoup, Espoir de Bukavu. Et nous donnons la parole à Arsène, qui se trouve à Kikwit. Bonjour.
Bonjour madame.
Oui, Arsène, vos propositions pour prévenir les catastrophes naturelles.
Ok, je suis un peu mes prédécesseurs. En tant qu'un ancien de la Metelsat à Kinshasa, vraiment, moi j'irai plus vers la façon de la gouvernance. Parce que les catastrophes peuvent être garanties, elles peuvent être prévenues à l'avance si nous avons respecté nos services techniques qui sont en place. Commençons par la Metelsat. Voyez un peu, madame. Chaque temps que vous à la Metelsat, vous verrez que c'est désastreux. C'est malheureux. Malheureux comment? Les gens qui travaillent là-bas à la Metelsat, en quelque sorte, ce sont des savants. Il faut les respecter. Mais ils sont bafoués. Ils sont bafoués. Allez-y comprendre que la Metelsat n'est pas bien payée d'abord. Il y a des redevances internationales qui viennent pour la Metelsat, pour encourager les travailleurs qui sont à la Metelsat. Ces travailleurs-là n'ont rien. Pourquoi? Parce que c'est la RVA qui prend les redevances de la Metelsat. Et puis, quand vous allez à la RVA, vous trouverez que ça va un peu plus loin, la poste se trouve chez une autre personne qu'on ne peut pas toucher. C'est grave. Prenons les études sismiques. Quand on fait des études sismiques, on essaie de prévenir les tremblements de terre, les éboulements, la pluviométrie, toutes ces histoires-là techniques. Nous, on s'en fout. On s'intéresse plus au domaine politique, parce que ça paye bien, mais le domaine technique qui sert à prévenir les catastrophes, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'il y a à Kikwit? Kikwit, c'est une ville qui est construite dans des sites accidentés. Mais allez-y voir un peu les services techniques du cadastre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont donné des certificats d'enregistrement, des contrats de location, n'importe où, juste parce qu'ils doivent mettre de l'argent dans leur poche, ou bien ils doivent mettre de l'argent dans la caisse de l'État. Ce service-là, comment est-ce qu'on peut l'orienter? Comment est-ce qu'on peut mettre du sérieux dedans? Et en fin de compte, nous avons des origines ici, Nous avons une pluviométrie ici, madame, qui laisse à désirer. On a des pluies chaque jour. La terre s'est affaiblie. D'ici peu, nous irons de catastrophe en catastrophe atypique. Alors là, je fais appel directement aux autorités d'essayer un peu de prévenir, parce que moi, je vois des autorités ici qui sont en train de préparer déjà leur campagne ici. Aussi longtemps, ils ont des machines que l'OVD n'a pas, ils ont des machines que l'Office de route n'a pas, et l'argent, les 8 millions qui étaient prévus pour aménager la ville de Tchiprit, a disparu, personne ne s'est réclamé. Vraiment, je fais un appel pressant aux autorités, parce que nous risquons d'avoir de très sérieux problèmes. Et j'insiste beaucoup sur les services techniques de l'État. Nous avons des très bons techniciens ici, au Congo, et sans de leur faire confiance, leur donner leur dû à la fin du mois pour qu'ils fassent un bon travail. Je salue ceux de la MPSA qui m'ont connu de passage. Merci beaucoup, madame.
Merci, Arsène. Donc, pour vous, il faudrait renforcer les services techniques, que ce soit les services de météorologie ou ceux qui peuvent parfaitement décrire les mouvements sismiques, et que ce soit en équipement ou bien sûr en conditions de travail. Merci Arsène. Docteur Richard, à Kinshasa, nous vous écoutons. Bonjour.
Bonjour Marie Chantal, bonjour à tout le monde.
Oui, qu'est-ce que vous préconisez?
Voilà, voici ma modeste contribution pour prévenir les catastrophes naturelles. Il faut commencer d'abord par poser le diagnostic de type de catastrophe qui s'abat sur X, Y, point de la République. Il faut rentrer dans les archives et lire ce qui s'est passé il y a 50 ans, il faut le faire. Deuxième chose, une fois le diagnostic posé, passer à l'encadrement de la communauté en tenant compte du type de catastrophe. L'encadrement est dans le système formel et informel, c'est-à-dire à l'école, à tous les niveaux, et dans la rue. Parce que l'homme qui va à l'école est dans un système où il est facile de l'enseigner, mais dans les quartiers, le système n'est pas facile.
Docteur Richard, est-ce que c'est possible que si vous déplacez un tout petit peu, parce que là nous avons des problèmes avec votre ligne téléphonique, on n'arrive pas à vous suivre, il y a même un bruit de fond qui est désagréable à l'audition. Docteur Richard, nous allons essayer de pouvoir vous recontacter parce que là, vous êtes en train de nous expliquer ce que vous préconisez. Déjà, vous êtes en train de nous dire qu'il faudrait mener des études pour savoir quels sont les genres de catastrophes naturelles que peut connaître notre pays. À chaque catastrophe, des préventions qui soient vraiment, qui correspondent à ce genre de catastrophe. Mais aussi, vous avez dit, il faudrait tenir compte des archives parce qu'il est nécessaire de savoir ce qui s'est passé dans notre pays pour pouvoir avoir un regard nouveau vers l'avenir et voir comment prévenir ces catastrophes. Le temps que la réalisation puisse vous recontacter, nous allons poursuivre avec Albert qui se trouve à Kisangani. Bonjour Albert.
Bonjour.
Albert, nous vous écoutons.
Oui, oui, bon, Kisangani ici est presque menacé par le réchauffement climatique. Bon, qui travaille par ça, les questions d'abord, c'est quand même, c'est un îlot. Alors maintenant, nous sommes victimes des constructions anarchiques. Imaginez-vous, à Kisangani, il n'y a même plus d'espace vert où nos enfants peuvent même s'amuser. Par exemple, au cas des bénéficiaires, il y a Avenir Zéro. Avenir Zéro, maintenant, on est en train de construire. On a déjà détecté ça. Bon, on a attribué ça à une catégorie de personnes. Il y a un domaine même de mécanisation. On est en train de construire l'hôpital là-bas. On a déjà traité là aussi. Au lieu d'abord d'achever le TPH à Mangob là-bas, on a préféré déjà traiter les traités de mécanisation. Toutes les voies de l'évacuation sont presque bouchées. Imaginez-vous même à la télé de Kisangani là derrière, on a même l'outil à l'écho qui vient là-bas, donc des constructions anarchiques. En ville, la même chose, on est en train de couper les arbres sans qu'il ne produise de reboisement. Donc vraiment, nous sommes vraiment menacés, il n'y a plus d'espace vert. Au plateau médical, voire même côté là, on appelle là le Bercy, la même chose.
Oui, vous déplorez. Oui, s'il vous plaît, Albert.
Donc c'est grave, madame.
Albert, vous déplorez.
Dans la fin d'urgence. Il faut vraiment sauver ça. Donc ils sont vraiment menacés. Donc la nature est menacée. Qui serait vraiment menacée à cause de constitution anarchique. Il s'agit des cadastres
qui te conseille, tout ce genre de fumant, il faut les arrêter, il faut les foutre dehors. Tout ce genre de grands voleurs. Il faut que c'est même apposer, il distribue des parfums pour apposer ce même le procès. Vraiment, c'est bien, il faut les mettre dans le dos, si tu veux, ça se met des cadavres et des défoncés.
S'il vous plaît, Albert, donc, construction d'archives, vous estimez qu'avec toutes ces constructions d'archives, dans un proche avenir, Kisangani risque de connaître des érosions, des glissements de terrain. Et dites-nous, qu'est-ce que vous préconisez? Vous avez dit qu'il faudrait changer les autorités à la tête de ces divisions, à la tête de ces secteurs, de ces structures qui sont chargées de lotissements, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a autre chose que vous proposez, Albert, de Kisangani?
Oui, en principe, mais aussi, il y a un problème, il y a aussi un problème de mentalité qui se pose, parce que la population aussi doit avoir une mentalité, une culture, quoi. Parce qu'il préfère qu'on signe n'importe où. Donc, il y a aussi un problème de mentalité. Imaginez-vous, par exemple, à Kisangani, s'il faut une bonne mémoire, à Kisangani, avant le match, il n'y avait aucun gandard dans la commune de Makiso. Mais aujourd'hui, c'est plein de gandards. Donc, le gouvernement est pour lui. Vous passez par, là, vous écoutez la musique en plein journée. Mais je n'ai pas mon moyen de déclamer.
Donc, merci, Albert. S'il vous plaît, Albert, j'espère que le métier des gandards un peu partout ne favorise pas, en fait, les catastrophes naturelles. Merci, Albert, d'avoir participé à cette émission. Non, pour vous, il faut lutter. Oui, pour vous, il faut lutter vraiment contre ces conséquences. Anarchique, changer de mentalité, de comportement, que la communauté puisse se rendre compte de ne pas pouvoir construire n'importe où sans bien sûr avoir l'aval de tous les services qu'il faut pour savoir est-ce que cet endroit est à haut risque ou pas. C'était un peu pour rire hein, lorsque vous avez parlé des Ngandans. Nous savons très bien qu'il n'y a pas de lien entre les bistrots et les catastrophes naturelles. Nous avons Platini qui se trouve à Kananga. Bonjour Platini.
Oui. Bonjour à l'invité et bonjour aux auditeurs de Radio Platini.
Nous vous écoutons. Qu'est-ce que vous préconisez?
Moi, je crois que c'est un problème d'homme. Vous savez, actuellement, il y a un problème. Les gens qui sont suffisamment informés et qui sont capables de prévenir les catastrophes naturelles sont négligés parce que n'ayant pas des frères ou qui que ce soit pour accéder. Les autorités qui sont là ne choisissent que les membres de leur famille ou certaines personnes qui partagent avec eux les affinités. Je crois que si on fait appel aux hommes qui comprennent la chose et qui peuvent donner une solution durable, je crois que ça peut aller. Et aussi, dans un problème de matériel, il faut toujours du matériel qui voit et qui prévient toujours le danger, un éventuel danger. Mmh. Donc je crois que c'est à ce point de vue-là qu'on peut se tourner. Et aussi, les autorités qui sont là, aujourd'hui, ils ne font que lotir partout. Et lorsque une autre autorité viendra, va chasser ces gens-là pour revendre encore l'endroit. C'est tout un problème. Donc, je crois que c'est un problème d'homme. Et aussi, il faut former les gens quant à ça. Et chercher les spécialistes en la matière.
Merci, Platini. Dans le problème d'homme aussi, il faudrait équiper les services français à mener des recherches dans ce domaine. Mais aussi, vous dites qu'il faudrait former. Hein, c'est important. Merci Platini d'avoir participé à cette émission. Nous allons revenir dans ce studio avec notre invité, M. John Mwanza, qui est du département de la gestion des catastrophes naturelles à la Croix-Rouge.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocafé.net.
Monsieur Mozart, vous avez suivi cette deuxième série d'auditeurs qui sont venus sur des points assez techniques, reboisement, renforcer les services techniques météorologiques, bien ceux qui sont qui mènent des recherches dans le domaine sismique. Il y a aussi Dr Richard de Kinshasa qui pense qu'il faudrait d'abord mener des études pour savoir quelles sont en fait les catégories de catastrophes naturelles que notre pays est prédisposé à pouvoir avoir, bien sûr, et voir dans quelle mesure, en tenant compte, bien sûr, des archives. Et aussi, nous avons Albert de Kisangani qui revient sur les constructions anarchiques, sur la mentalité
Tatini de Kananga, un problème d'hommes, d'équipement et de formation. Qu'en pensez-vous, monsieur Moisa?
Merci, Radio Capi. Je crois, même le propos du docteur tout à l'heure et de notre ami
de Kikwit.
Je l'ai déjà dit, le docteur a parlé des diagnostics. Mm-hmm. Mais je vous ai parlé, ce diagnostic peut aboutir, c'est seulement quand on fait cette étude, ou même des études, études de vulnérabilité des capacités, EVC en cible. Donc, cette étude permet de rechercher, d'identifier quels sont les problèmes dans une entité donnée. Mmh. Et à la fin, on pourra maintenant trouver...
Est-ce que lorsque vous menez par exemple vos études, est-ce que vous collaborez avec les services techniques, comme par exemple les services techniques qui mènent des études sur la systémologie, si ça existe?
Ok. Et c'est vrai, la Croix-Rouge ne travaille pas seule. J'ai d'abord parlé de la communauté qui doit être impliquée, mais on ne peut pas défendre sur terrain dans une entité donnée sans contacter, sans collaborer avec l'autorité politico-administrative. Et à ce titre-là, on nous adjoint toujours quelqu'un qui est spécialiste à l'un ou l'autre domaine, c'est-à-dire impliqué dans ce cadre qu'on est en train de parler tout à l'heure. Je voulais aussi ajouter, nous ne pouvons pas négliger ce qu'on attend par la cartographie d'une entité ou la cartographie des zones à risque. Et quand on fait l'EVC, donc l'étude des vulnérabilités, on arrive à la fin pour dresser une carte là où il faut identifier directement ces zones à risque. Et quand ces zones à risque sont identifiées, on doit maintenant connaître les périodes auxquelles cette situation arrive souvent. Et là, chez nous, pour nous à la Croix-Rouge, nous préparons ce qu'on appelle un plan de contingence. Plan de contingence, donc, c'est un plan sectoriel pour un cas donné. Quelques plans de contingence en prévision des inondations. Pour, par exemple, tel point.
Prenons le Kinshasa. Dans le plan de contingence, il y a des mesures préventives ou bien c'est seulement en cas de catastrophe?
Le plan de contingence, là, tout est là. Tout est prévu. Qu'est-ce qu'il faut pour minimiser? Voilà. Quand on parle de réduire les risques, donc, en amont, on fait quelque chose. C'est-à-dire que on essaie de préparer, d'atténuer. Si le danger pourrait arriver, ça ne sera pas tel que nous l'avons connu par le passé. Donc,
c'est au niveau vraiment des populations, au niveau les plus bas. Mais Croix-Rouge, en tant que structure qui appuie le gouvernement, on regarde par exemple des préoccupations de Dr Richard ou de Arsène, qui souhaitent en fait qu'on puisse équiper et renforcer les services, par exemple, météorologiques. Qu'est-ce que vous menez comme action, par exemple, pour demander au gouvernement de pouvoir quand même équiper ces services qui peuvent facilement prévoir certaines catastrophes? Parce que dès qu'on est averti, on peut facilement savoir ce qu'on peut faire pour faire face à ces éventualités.
Merci madame, c'est bienvenu. Je peux vous donner un exemple très pratique que la Croix-Rouge a fait il y a de cela 3 ans, sinon 3 ans, oui, ou 2 ans. C'est au Nord Kivu. Vous savez qu'il y a un centre Luiro, le centre Luiro.
Oui. D'ailleurs, nous avons un auditeur de Goma, voilà, qui pourrait donner plus de précision,
oui, par rapport à cela. Pour la détection de mouvements sismiques. Même le problème de Bukavu, donc, dont on a fait allusion, des tremblements de terre. Et c'est contrôlé à partir de ce centre de Luiro, qui ont des matériels pour la détection de ce genre de problèmes. Et puis, la Croix-Rouge a intervenu, c'est-à-dire qu'a appuyé tant soit peu au service de Luiro pour lui renforcer un peu de capacité en matière de la recherche ou de la détection. Et puis, avec la Croix-Rouge, ensemble, et le centre, les agents du centre LUIRO, nous avons fait des études ensemble, nous avons animé la population, sensibilisé la population, là où on a placé les matériels,
les équipements
de détection. Parce que, jadis, la communauté prenait ces matériels ou ces appareils de détection comme étant des objets là, et puis ils détruisaient quelquefois. Mais depuis ces temps-là, depuis cette intervention de la Croix-Rouge, en tout cas, la communauté a pris conscience, et puis les matériels, les appareils de détection sont là, et la communauté même donne des informations. Et puis informe, même quand il y a quelques situations, quelques éventualités, la communauté informe même le service des bureaux.
Vous avez encore cette affaire de construction d'articles parce que presque tous nos auditeurs sont revenus. Qu'est-ce que vous faites auprès du service de l'État pour un peu réduire les risques de construction des milieux à haut risque?
Bien, madame, merci. Il y a ce qu'on appelle la répartition des tâches. L'État en lui-même a déjà deux services que nous pouvons dire, deux ou trois services. Je cite, il y a l'Institut géographique de Kinshasa, du Congo, IGC, Institut géographique du Congo, qui a comme tâche la production et la reproduction des cartes géographiques. Et par là, aussi a des responsabilités pour produire des cartes des zones à risque. Et ça, c'est très important. Il y a le service de cadastre qui en a aussi des responsabilités. Et nous avons le service d'urbanisme. De ces trois services ou départements cités, suffisamment, l'État a
des techniciens
pour
mener des études assez.
Merci, madame.
Mais
on ne peut pas négliger.
On ne peut négliger, mais c'est une question aussi d'appliquer tout ce qui est organisé, tout ce qui est trouvé comme les résultats de leurs recherches. Nous allons revenir à vous, le temps d'écouter Franck de Goma et aussi un dernier auditeur, parce que nous sommes en train de cheminer vers la fin de cette émission. Et aussi, bien sûr, nous allons revenir à vous pour conclure cette émission. Franck, vous êtes à Goma, bonjour.
Madame, bonjour à l'invité, tous ceux qui nous écoutent.
Nous vous écoutons, nous savons qu'à Goma, il y a le volcan souvent qui fait interruption et qui fait éruption plutôt, je pense que c'est ça le mot. Et souvent, il y a aussi ces catastrophes naturelles qui arrivent. À Goma, comment vous faites, qu'est-ce que vous proposez pour prévenir les catastrophes naturelles, que quand ça arrive, en fait, qu'il y ait moins de dégâts matériels et moins de pertes en vie humaine?
Oui, s'agissant effectivement du volcan, comme l'invité venait de le dire tout à l'heure, il y a effectivement un matériel là que l'UNOPS a mis en place pour la détection et l'évolution de l'activité volcanique. Mais là, je dois vous dire que c'est quand même désolant que ce matériel ait été volé au moins deux fois. Enfin, nous, on ne sait pas tellement plus, mais on suit les infos à la télévision. Donc, tout récemment, ce matériel a été volé. Donc, ça fait pratiquement un deuxième vol en moins de 6 mois où ce matériel est volé. Alors, le plus important, c'est de savoir qui est le voleur de ce matériel-là qu'on vole à tout moment. Et à ce que je sache, là, je ne pense pas que ce matériel a été déjà remplacé. Ça nous inquiète pas. Alors, je voudrais quand même revenir sur les causes de catastrophes naturelles qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui peuvent être gérées par l'homme. Là, je vois par exemple la ville telle que Kinshasa, où il y a une très forte concentration de la population. Donc, c'est quand même curieux de voir que tout le monde veut habiter à Kinshasa et au centre de Kinshasa. Et c'est quand même une grande cause de cet endettement, des inondations, et qui font pas mal de dégâts. Et chaque année, je crois qu'il y a au moins un d'hommes, chaque année. Alors, madame, je voudrais vous dire qu'en 2005, il y a eu un projet sur la construction de logements sociaux dans les périphéries de la ville, un projet dans lequel j'ai personnellement travaillé, mais ce projet n'est pas allé loin. Tout simplement parce que les 58 millions de dollars qui ont été détournés, le projet était exécuté à je crois, 10-15% et il s'est arrêté. Hein, le volume de cet argent en soi libre, ils sont connus. Donc, la deuxième cause,
oui.
La deuxième cause, c'est comme on l'a dit, c'est une construction anarchique. Madame, comment vous imaginez que il y ait des gens qui construisent, par exemple, de l'eau de rivière, mais qui détiennent des certificats d'enrichissement légaux,
oui.
Je ne veux pas les autorités locales,
c'est une question
de compétence.
Vraiment, nous allons nous excuser de pouvoir vous interrompre parce que nous arrivons vraiment à la fin de cette émission. Merci, vous déplorez le fait qu'il y ait des incivils qui continuent à voler au niveau de ce grand centre qui permet en fait de pouvoir prévenir en cas de catastrophe naturelle, notamment les mouvements sismiques et tout ce qui est lié au volcan de Nyiragongo. Merci Franck. Nous allons redonner la parole à notre invité pour conclure cette émission. Vous avez suivi tous nos auditeurs, leurs propositions, leurs dénonciations, mais aussi leurs craintes concernant bien sûr l'avenir pour prévenir ces catastrophes, bien sûr aussi ce que eux ils pensent que l'État doit nécessairement faire pour prévenir ces catastrophes. En conclusion, Monsieur John Mwanza, qu'est-ce que vous nous dites concernant la prévention en une minute?
Merci. Pour la prévention, je peux dire ceci. Tel que nous venons de dire tous, avec les collègues intervenants, les responsabilités qu'on incombe, les grandes responsabilités au gouvernement, mais moi je dis que c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous, c'est la conscience et la sensibilisation. Nous devons sensibiliser la communauté pour enfin
être responsable de ce que nous faisons. Merci beaucoup, M. John Mwanza. Je rappelle aux auditeurs que vous faites partie du département de la gestion des catastrophes à la Croix-Rouge nationale. Merci aux auditeurs. Nous allons nous retrouver demain pour un nouveau numéro de parole aux auditeurs. Nous parlerons de l'accueil dans les structures sanitaires et autres services publics. Qu'avez-vous constaté dans vos milieux? Et si c'est un constat négatif, que faire pour l'amélioration de ces services? Vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Nos remerciements aussi à Christine Poutou, Nicole Ngaka et Jean-Noël Mokondo qui ont réalisé cette émission. À la prochaine. Entre-temps, restez branchés sur Radio Capi pour la suite de ces programmes.